Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Biro.
Halud Mouni.
Chen Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à nos programmes et merci à vous qui nous recevez chez vous grâce à nos stations partenaires un peu partout dans le pays, dans les 8 régions donc du Mali. Aujourd'hui, c'est vendredi 17 avril 2015. Nous sommes vendredi, c'est le forum de la presse. Les invités ne sont autres que des journalistes. Nous allons parler de quatre sujets aujourd'hui. Le Parafoupa, du pré-accord de paix par la CEMA, la recrudescence de la violence dans le nord du Mali, les drames de migration qui ont fait donc 400 morts à 400 Africains, dont des Maliens, le sommet des chefs d'État du CIL, ce qui a donc porté le président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de l'institution. Nous sommes avec trois invités, Mbaye Koulibaly du syndicat des reporters du Mali, Lamfia Sinaba, journaliste indépendant, et Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous direz, est à la technique.
Studio Tamani.
Pas d'évolution significative donc dans les pourparlers à Alger. Convoqué à Alger pour une cérémonie de paraphe du projet d'accord de paix par la coordination, les délégations restent en stand-by en attendant le programme officiel décidé par la médiation dans les coulisses. Les regards, les rencontres sont informelles, se multiplient et les regards, tout ceci se passe donc loin des regards des médias. Nous avons notre envoyé spécial à Alger, Issa Fakabassi Soko, qui va donc faire le point de la situation avant d'entamer cette émission.
Officiellement, personne ne veut parler d'un sixième round des négociations. Mais trois jours après leur arrivée dans la capitale algérienne, les délégations poursuivent leurs discussions, pour autant sans rentrer dans le vif du sujet. La cérémonie de paraphe par la CEMA annoncée par le chef du fil de la médiation n'a pas encore eu lieu. Et réunions de tractation sont en cours, en attendant peut-être de parvenir à un compromis. La CEMA a annoncé qu'elle ne signera pas le document d'Alger en l'état actuel. Hier, la médiation a reçu justement la délégation de la coordination des mouvements armés. Mais difficile de savoir ce qui a filtré de cette rencontre. Nos échanges ont été intéressants, explique Moussa Ag Acharatouman de la CEMA, sans donner plus de détails. À la question de savoir si la CEMA va paraffer le projet d'accord, il se limite à répondre que rien n'est encore décidé. Les débats sont en cours, ajoute-t-il. De leur côté, les représentants de la plateforme des groupes armés ont également été reçus hier après-midi par la médiation. Le secrétaire général du Gatcha qualifie d'échange courtois cette rencontre. Les membres de la plateforme se disent patients en attendant de prendre connaissance du programme officiel de la médiation. Quant à la délégation du gouvernement du Mali, elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ce dernier est arrivé dans la capitale algérienne il y a quelques heures en provenance des États-Unis. Issa Fakabassi Soko depuis Alger pour Studio Tamani.
Merci Issa. Alors Mbaye Koulibaly, vous êtes du syndicat des reporters du Mali. Est-ce que c'est assez clair à vos yeux?
Merci bien, merci de m'avoir invité pour cette émission. Je pense qu'on est devant un cas extrêmement difficile. Vous savez que tout ce processus, la signature de ces accords d'Alger maintenant pose toute la problématique dès le début de ce processus. Vous savez, on l'avait dit, hein, ces groupes rebelles ne représentaient rien. Et aujourd'hui, toute la problématique, c'est ces groupes rebelles, ils vont signer pour qui? Et quel est réellement l'impact de la signature? Quel sera l'impact de la signature? Je crois que c'est toute la problématique aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'arrivent pas du tout à coordonner les violons et à faire la signature de cet accord, de le paraffer. Et on voit réellement, hein, on voit réellement tout ce qui se passe sur le terrain. Toute cette litanie, le fait de ne pas pouvoir coordonner les violons, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, on avait raison de dire que ce groupe rebelle, effectivement, ne représentait rien sur le terrain. Mmh. Et aujourd'hui, je crois que c'est en train d'être confirmé. C'est de la planche pour les médiateurs qui doivent quand même mettre du paquet pour que la signature puisse se dérouler. Et moi, je vois très, très mal comment ces groupes rebelles pourront signer. Même s'ils le font, je vois très mal comment ça pourra être appliqué à la base.
Mmh. Alors, Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM, vous êtes à votre première fois ici?
Oui, c'est ma première fois ici, oui.
Ça ne sera pas la dernière, j'espère.
Ah oui.
Alors, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre de la part de notre envoyé spécial, Issa Fakaba.
Ok, vraiment, merci beaucoup. Je remercie le studio Tamani. Comme mon confrère vient de le dire, réellement, ce problème de signature, Aujourd'hui, ça va être très très compliqué. Et d'ailleurs, ce qui retient mon attention, quand je vois aujourd'hui que certaines puissances étrangères disent que il faut que la CEMA paraffe, sinon ça sera accompagné des sanctions. Je dis, ben, on a fait 8 mois déjà à Alger. Après 8 mois, on avait dit de signer sans délai. Au lieu de parler de menaces maintenant, moi je pense que pourquoi les menaces n'ont pas accompagné l'accord quand le Mali avait paraffé. Donc c'est ça un peu mon inquiétude. Et il ne faut pas chercher les mots loin, il faut le dire. Et vraiment, moi je pense que cette complaisance internationale-là, vraiment, il faut qu'ils prennent une position claire. Voilà.
D'accord. Lamfi Assinaba, vous êtes journaliste indépendant. Votre réaction par rapport à ce que vient de dire Issa Fakaba?
Bon, quelque part, ce n'est pas, on peut dire que c'était attendu dans la mesure où ils ont été clairs et ils vont venir à la cérémonie. Mais quand on regarde le contenu de leur lettre, on se rend compte que c'était toujours conditionné aux différentes revendications qu'ils ont faites dans leur mémorandum, dans leur document élaboré le 17 mars. Donc à Alger, on est allé à un dialogue de sourds parce que le gouvernement et la médiation sont clairs. Le processus, il est parachevé. Il n'y aura pas d'autres négociations. Et de son côté, la CEMA tient toujours à ce que ces revendications-là soient prises en compte. Donc, quelque part, il fallait s'attendre à cela. Et dans le compte rendu de Issa, votre envoyé spécial, il y a un aspect que j'ai noté. Il dit que le programme officiel de la rencontre qui est présentement en cours est toujours attendu par la CEMA. Donc, peut-être quelque part, il faudrait se poser la question pourquoi la médiation a convié et le gouvernement malien et les groupes armés de la plateforme ainsi que les groupes armés de la CEMA sans au préalable se donner une idée de ce qui allait être dit. Quelque part, ça invite à réfléchir par rapport est-ce qu'il n'y a pas un pilotage à vue. Parce qu'en principe, arrivé à Alger le 15, ça devrait trouver que au moins, il y avait un programme officiel sur quoi on allait discuter. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas.
Alors, juste une précision. Alger, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on arrive, on a l'impression de patauger.
Justement, du moins, on a paraffé. On devrait sortir de ce carcan maintenant pour que les choses aillent encore de façon plus précise.
Je voudrais signaler que c'est toute la problématique qu'on a pour pouvoir coordonner. Parce que vous savez, si on regarde un peu depuis le début de la création du mouvement national de libération de la Jade. Vous voyez et qu'après que le Mali a été libéré des djihadistes en 2013, vous voyez qu'à chaque fois, c'est des petits groupuscules qui se créent au niveau du MLLA et qu'on a du mal à coordonner. Donc, ce qui fait vraiment que la médiation a du mal à coordonner tout ce qu'il y a comme programme de travail au niveau d'Alger. Donc, vraiment, c'est la complicité et on sait que vraiment ça restera comme cela. Tant que ces rebelles, on n'aura pas vraiment eu une lecture claire de ce qui se passe.
Alors, la délégation malienne rejette toute idée de négociation, de renégociation du préaccord pour justifier sa présence, qu'elle qualifie donc de membre observateur. Alors, pourra-t-elle changer d'avis, cette délégation malienne?
Ok, membre observateur, moi je pense que il faut pas se cacher derrière une certaine complaisance. Non, je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, quand on quittait Alger, on avait dit réellement que tout le monde devait paraffer, n'est-ce pas? Donc, on avait dit aussi qu'il n'y aura plus de négociations. Aujourd'hui, vraiment, moi-même, je suis étonné dans mon analyse de voir qu'aujourd'hui même, le ministre malien, le ministre des Affaires étrangères, soit présent aujourd'hui à Alger. Moi, je me dis que vraiment, ce n'était pas la peine. Quand vous voyez les points essentiels à introduire dans leur projet d'accord-là, comme mon confrère l'avait dit, mais quand j'ai lu ces différents points-là, non, il faut pas se mettre dans un leurre, ça ne peut pas marcher. Moi, je pense qu'il faut être catégorique. C'est-à-dire que sur quoi on s'est levé à Alger pour la première fois, il faut leur dire la vérité et que cette fois-ci, il ne faut pas tourner. Parce qu'on va aller à Alger, comme vous l'avez dit, pour combien de temps encore? Voilà les problèmes. Pour combien de fois et pour combien de temps? Et moi, je pense que vraiment, cette affaire-là, on est arrivé à un niveau où vraiment les choses doivent être très claires, très délimitées et très 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 précise quoi, vraiment.
Alors, je rappelle que vous êtes Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM. Alors, tout le monde a sous les yeux la lettre que Bilal Agchérif, président donc, qui représente donc la coordination des mouvements armés de l'Azawad, une lettre qu'il a adressée donc au ministre des Affaires étrangères de l'Algérie concernant le fait que la CEMA était disposée à signer, à paraffer cet accord dans le délai qui sera imparti donc par la médiation. Est-ce que c'est une façon de rétropédaler, si on peut dire, un bailli?
Oui, je crois que c'est ça extrêmement, parce que la médiation, en fait, Bilal, le MNLA, comme je l'ai dit, est patouge dans ce qui se passe à Alger. Ils n'ont pas un programme de travail, et à chaque fois le programme de travail qu'on leur donne, ils ne sont pas coordonnés. Donc ce qui fait que, moi je pense qu'il faut craindre un sixième round de négociations. Parce que la médiation ne pourra pas faire assez de pression telle qu'on le souhaitait.
Alors que dire aujourd'hui de la détermination de Bamako qui ne veut pas renégocier ce préaccord?
Moi je pense que Bamako, il faut que Bamako reste sur une ligne. Si nous revenons sur ce, ça veut dire qu'on n'aura jamais un accord, on n'aura jamais un programme, un document valable. Donc à chaque fois on va revenir sur les mêmes documents. Je pense aujourd'hui que Bamako doit avoir une intransigeance sur le document qui est disponible, et maintenant vraiment c'est à la communauté internationale de juger.
Alors la fiancée Sinaba, quelque chose sur la position de Bamako?
Avant de revenir à la position de Bamako, dans la lettre de Bilal Agchérif, il informe la médiation de la disponibilité de la CEMA à signer, mais juste la phrase suivante, il dit que ce paragraphe sera suivi de consultation avec les parties pour clarification et explication. Ça revient toujours à leur revendication du 17 mars. C'est là où je me dis que, quelque part, on risque de me traiter de faire l'apologie de la rébellion. Baye, mon confrère disait qu'il patauge. Mais sur ce point, il ne patauge pas. Depuis le 17
mars. C'est assez ambigu, la position de la CEMA dans cette lettre.
Justement, c'est ambigu tout ça. C'est là où on peut peut-être dire qu'ils ne sont pas de bonne foi. C'est à partir de cela également qu'on peut dire qu'ils ne sont pas de bonne foi, mais dire qu'ils patauchent, je pense bien qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils tiennent toujours à leurs revendications relatives à l'autonomie. Parce que les points que Antoine a évoqués tantôt, c'est des points, quand on analyse à fond, ça fait référence ni plus ni moins qu'à l'autonomie. Ils sont figés à cette position. Maintenant, quant au gouvernement, la position de Bamako, je pense que, je l'avais dit tantôt, elle est claire, cette position. C'est qu'il n'y aura plus, le processus d'Alger est parachevé. Mais le gouvernement estime qu'en dehors de ce processus, dans le cadre de l'application de l'accord, certaines préoccupations, certaines aspirations des groupes armés peuvent être prises en compte. Mais le processus en tant que tel, il est parachevé. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Et la médiation est d'avis. Maintenant, il a tantôt parlé de sanctions. Sur ce point, il y a récemment le représentant de l'Union européenne pour le Sahel, Michel Révérend de Menton, qui était de passage à Bamako il n'y a pas longtemps, il disait que c'était une question d'un confrère, que pour l'instant, il n'y a pas de sanctions prévues, mais c'est possible aussi qu'il y ait des sanctions. C'est-à-dire qu'il y a des mécaniques des Nations Unies, de la communauté internationale, qui sont là, qui font pression, qui sont de nature à contraindre les groupes armés qui résistent longtemps aux décisions de la communauté internationale. Maintenant, il faudrait attendre combien de temps pour que ces mesures-là soient mises en branle, point d'interrogation.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause, ensuite nous reprendrons le cours de cette émission, une prolongation donc de ce premier sujet que nous avons entamé.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre compte Twitter, mais également notre page Facebook. Vous avez aussi l'opportunité de visiter notre site web www.studiotamani.org où vous pourrez réécouter cette émission ou bien l'écouter tout simplement en direct. Alors, nous parlons aujourd'hui dans le forum de la presse de quatre sujets. Le paraphe donc du préaccord de paix qui se fait toujours attendre du côté de la coordination des les mouvements armés de l'Azawad, la violence dans le nord du Mali avec l'attentat ce mercredi à Ansongo qui a fait donc 3 civils tués et 16 blessés. Le drame donc qui a fait également 400 migrants africains morts et dont des Maliens. Nous allons en parler dans la dernière partie avec aussi ce sommet du SILS. Nous sommes avec 3 confrères. Alors nous allons poursuivre donc cette première partie qui parlait donc du paraf qui se fait toujours attendre du côté de la CEMA. Alors nos auditeurs qui n'ont pas l'opportunité de lire cette lettre que nous avons ici dans le studio sur la position de la CEMA, une lettre adressée au président donc de la médiation, au ministre des Affaires étrangères algérienne, donc qui dit, datée du 4 avril, une lettre de Bilal Hakchérif, président donc du MNLA. La lettre dit donc, dans le souci de permettre au processus de continuer, la CEMA, après analyse de la situation, vous informe donc la médiation de sa disponibilité à procéder au paraf du document du 1er mars, le préaccord donc 2015. Ce paraf sera suivi de consultation avec les parties pour clarification et explication de points qui constituent les obstacles, et cela dans le but que ces consultations puissent favoriser la signature du dit document. Alors, une position que certains ont qualifiée d'ambiguë. Alors, vous vouliez réagir, Antoine Dembélé, vous êtes de la radio Renouveau FM.
Ok, merci cher confrère. Comme l'avait dit l'autre là, quand vous voyez cette phrase, Lafia, mon confrère, déjà, vous paraffez un document et vous dites encore après le paraf, qu'est-ce qu'il dit ici? Que le paraf sera suivi de consultations avec les parties pour clarification et explication des points qui constituent les obstacles. Bon, moi je pense que le terme qu'il faut utiliser ici, hein, ça n'engage que moi, ça c'est de la mauvaise foi. C'est très clair. Un document élaboré pendant 8 à 9 mois, tous les points, un à un, hein, ne sont pas cachés. Et moi, je pense que, vraiment, ça veut dire, comme l'avait dit mon confrère, réellement, ces gens-là ne représentent pas vraiment de population. Et ces gens-là, c'est de la mauvaise foi. Parce que ce document qui est là, hein, le document qui sort d'Alger, c'est un document, si jamais, ils vont signer ça et ce sera leur fin. Voilà.
Alors, nous allons donc, du coup, partir avec le deuxième sujet, les violences. La fille avait ajouté quelque chose.
Les auditeurs, seraient bien d'expliquer parce que les obstacles qu'évoque la CEMA, c'est les différentes revendications que vous aviez évoquées tantôt, qu'ils ont élaborées à l'issue de leur rencontre avec les diplomates le 17 mars. Et ce sont les éléments de ce document-là qui constituent les éléments de blocage. Il serait bon d'expliquer cela aux auditeurs, oui, quoi, c'était pour compléter.
En deux secondes, oui. Quand vous voyez les points essentiels à introduire dans leur projet-là, vous voyez sur le plan sécuritaire, vous voyez 80% des gens qui seront recrutés pour la sécurité, que ces gens-là viennent de l'Azawad.
Des combattants.
Mais ça, c'est très grave, même pour la promotion, pour les grades. Ça, c'est dangereux. Voilà.
Alors, nous allons passer au deuxième sujet, les violences dans le nord du Mali. Mercredi dernier, le pays a vécu un regain d'insécurité. Un kamikaze s'est fait sauter près du camp de la MINUSMA à Ansongo, faisant 3 morts et 16 blessés. Un véhicule des FAMA, des forces armées maliennes, a sauté sur un engin explosif à Boni. Ce bilan fait état de 3 blessés, dont un grave. Enfin, une mine a fait une victime à Aguéléo, que cette semaine laisse donc croire à une recrudescence inquiétante de la violence dans le nord du Mali. Et dans le centre également, nous avons pu joindre Gaussou Drabo, un éditorialiste qui nous fait donc le point de la situation. Nous l'écoutons.
Il y a effectivement une montée de la violence dans le nord du pays, une violence de plusieurs origines. La tactique de tous ces groupes est bien simple, c'est semer l'insécurité, semer la psychose et faire le maximum de victimes sur des opérations isolées. Vous savez, à un moment, la montée de la violence était liée à l'acquisition de positions de force par différents groupes armés. Donc chacun, avant la reprise des négociations, essaie de conforter ses positions sur le terrain. Aujourd'hui, vous voyez que ce phénomène a complètement disparu et que avant l'intervention de Barkhane, il y avait déjà au centre du pays des groupes qui avaient fait allégeance à Acmi et qu'on disait assez proches de Yad. Ces groupes se sont mis en sommeil lorsque la conjoncture leur était défavorable et ils reviennent aujourd'hui.
Un grand merci à Gassou Drabo et qui reste toujours disponible à chaque fois que nous avons besoin de lui. Alors, Mbaye, vous connaissez bien cet éditorialiste pour l'avoir côtoyé pendant très longtemps. Alors, ce qu'il dit, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit?
Bon, moi, ce que je pense, en fait, on parle de recrudescence et de montée de la violence dans cette partie nord du Mali. Moi, je pense que plutôt il faut parler de persistance parce que depuis l'occupation en 2012, l'occupation des islamistes en 2012, cette région du Mali n'a jamais cessé d'être violente. Hein. Il y a toujours eu des trucs, il y a toujours eu des attentats.
Pourquoi précisément en cette période?
Oui, oui, parce que en fait après l'opération Serval, il y a eu une dislocation des groupes djihadistes qui ont maintenant adopté pour une autre forme de violence qui, comme on le dit assez, est une guerre asymétrique. Ça veut dire que maintenant ils évoluent pas en groupe pour attaquer, mais ils évoluent individuellement. Donc je crois que c'est vraiment une persistance de la violence dans cette partie du Nord où la violence n'a jamais quitté depuis 2012. Maintenant, quels sont les moyens de mettre en œuvre maintenant? Je crois que c'est parce que l'attentat qui est survenu à Songo, je crois que ça met un peu en mal la formation que nos gens voyaient, un véhicule qui fonce sur des militaires qui restent sur place jusqu'à ce que le véhicule les atteigne. Donc ça veut dire quand même il y a un problème de formation et pour ces gens-là qui quand même doivent savoir quel genre de violence désormais ils font face.
Alors, les violences, c'est également dans le centre du Mali, notamment dans la région de Ségou, où un rapport de Human Rights Watch fait cas de la création d'une nouvelle force, la force de libération du Massina, l'AFIA. Est-ce que l'empire du Massina est de retour?
Ah, à ce rythme-là, il faut craindre. Il faut vraiment craindre cela. Parce que la situation, elle évolue de telle sorte que si on ne fait pas attention, ça c'est le nord, le centre. Peut-être on en parlera dans le sud un jour. Donc il y a lieu vraiment de faire vite pour circonscrire à tout cela. Maintenant, pour revenir à l'aspect, et un autre aspect de la situation, c'est que au centre, on parle d'insécurité. Tout comme au nord, tout comme
au sud.
Maintenant, ce qu'il faut, cela renvoie une fois de plus à la question de l'accord. Parce qu'au moins, si l'accord est signé, ça nous permettra, d'une part, de focaliser toutes les énergies sur la lutte contre le terrorisme, et ça permettra, en un premier temps d'abord, de clarifier les choses, d'identifier les groupes. Et ça permettra également d'éviter une certaine forme de banditisme menée par quelques éléments isolés des groupes armés. Donc tout cela, il faut mettre cela dans le cadre de l'avantage qu'on aura en signant cet accord. Ça nous permettra de sortir de cette situation. Parce que ce qui est encore grave, c'est que j'ai une information que je vérifiais avant d'être sur ce plateau. À Ténénkou, je le dis parce que j'ai vérifié l'information. Les élèves ne vont plus à l'école. Les enseignants ne sont pas sur place. Et l'administration même ne serait pas sur place. Il n'y a aucune autorité administrative. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a cette recrudescence, la violence qui est en train de prendre de l'ampleur. Il faut craindre que ça ne soit pas vraiment davantage généralisé, puisque ça, c'est le cas aujourd'hui, malheureusement.
Alors, Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM, un mot sur cette deuxième partie, ce deuxième sujet consacré aux violences dans le nord, au centre et au sud.
Et comme Drabo l'avait si bien dit, leur mode opératoire d'abord, c'est la psychose. Parce que ces gens-là, ils tirent leur force de l'insécurité. Hein. Ça, il faut être très très clair là-dessus. Mais les groupes rebelles, là. Donc, quand vous voyez, comme l'a dit l'AFIA...
On parle de terroristes.
Oui, bon, de toutes les forces, groupes armés terroristes, je ne sais pas où se trouve la frontière.
Je pense qu'il y a une frontière. Hein.
Parce que réellement, bon, ce sont des termes vraiment qu'on veut qualifier celui-ci ou celui-là de terroriste ou bien de groupe armé. Bon, ce que je veux dire ici, par exemple, la psychose, ça c'est très dangereux. Parce que quand les gens ont peur, comme l'a dit l'AFIA, la peur, quand une personne a déjà peur, c'est-à-dire que votre essence est terminée. Donc maintenant, pour le centre, et leur mode opératoire, ils ont un peu changé encore parce que c'est très compliqué. Avec le véhicule bourré d'explosifs, Mais actuellement aussi, nous assistons à des gens qui évoluent en moto. Et là, c'est extrêmement dangereux. Nous avons même vu des bergers, des gens déguisés en bergers. Et vous savez, dans nos contrées là-bas, c'est assez compliqué. Donc moi, je pense que la signature de l'accord, comme il l'a dit, si l'accord est signé, tous ces gens-là, ils craignent ça. Donc ils ne font que retarder vraiment ce processus-là en mettant ces actes-là à exécution. Donc vraiment, nous inclinons devant la mémoire de ces de disparus. Et nous souhaitons un proche établissement à ces blessés-là. Voilà.
Merci beaucoup, Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM. Alors, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait fait une sortie sur, justement, la main cachée d'Yada Gali qui planerait sur ces accords. Alors, est-ce que aujourd'hui, le gouvernement malien ou bien la médiation s'adresse au mauvais interlocuteur? Est-ce que Yad doit faire partie donc de ces pourparlers pour que ces violences cessent dans le nord, dans le centre, puisque l'empire du Massina fait un clin d'œil à Anne Sardine, Lafia.
Yad, ça, on doit faire un inventaire des points qu'on aurait dû prendre en compte dans le processus d'Alger. Qu'on a oublié, c'est le cas Iyad, l'équation Iyad. Dès le début, on devait s'intéresser à ce cas. De deux manières. Soit ça ne plaît pas à des gens, négocier avec lui, l'impliquer, soit le liquider. C'était l'une des deux solutions. Maintenant, le président, il a dit l'ombre de Iyad plane. Je pense que c'est une analyse qui vient un peu en retard. Il fallait les signaler dès le début et s'assumer dès le début. Des leaders comme Iyad, quand ça ne va pas, soit on les associe, soit on les élimine. À un moment donné, il faut le dire, il y a un leader qui dérangeait. On l'a aménagé à un moment donné, quand ça n'allait pas, il a été liquidé. Il ne faut pas se leurrer. Donc le cas Iyad, on devrait en tenir compte dès le début. Parce que ça, c'est une confidence qui m'a été faite quelque part. Juste quand les groupes armés quittaient Alger le 1er mars, et c'était dans la logique de signer. Et au-delà de la confidence qui m'a été faite de façon officielle, le représentant de l'UE l'a dit, quand il se quittait après le 1er mars, avant le 1er mars, avant que le gouvernement et une partie des groupes armés ne signent, ils étaient dans la logique de signer, de paraffer. Et lui, il ne sait pas pourquoi ils ont
changé d'avis,
pourquoi ils traînent. Et pour revenir à la confidence qui m'a été faite, c'est qu'il y a le problème lié aux islamistes. Comment cohabiter avec les islamistes après le paraf? Tout est là. Tout le problème est là. Donc, je le dis et j'insiste là-dessus. Dès le début, on devrait tenir compte de l'équation Iyad. Maintenant, s'agissant de le liquider, est-ce qu'aujourd'hui on a le cran, point d'interrogation?
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, même si Iyad est connu, Iyad c'est le président donc d'Anne Sardine, ce groupe terroriste qui avait occupé à un moment donné le nord du Mali avec d'autres groupes comme le Moujao, le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest qui s'étaient ralliés à un moment donné également au MNLA. Alors, Mbaye, cette situation de Iyad, un mot venant de vous?
Bon, moi, j'ai des inquiétudes parce que Iyad, vous savez, comme vous venez de le dire, Iyad dirige un mouvement, le mouvement en Sardine, un mouvement classé terroriste. Et ceux qui sont en train de négocier à Alger, on les a demandé de se démarquer des mouvements terroristes pour pouvoir participer à la négociation. C'est les groupes qui se sont démarqués des terroristes qui sont en négociation. Si on ferait revenir et on faisait revenir Iyad dans les négociations, que dira-t-on du Moujao? Que dira-t-on des autres groupes armés qui sont
les conditions nécessaires pour qu'ils se démarquent des islamistes? Là, c'est très important. C'est la négociation. Il faudrait sinon
le. Mais qui va créer ces conditions?
Ah, voilà, le gouvernement
a
ce moyen.
Qui va créer cette condition?
L'État a des moyens. On ne va pas entrer dans cette détail.
Sur ce point-là,
Antoine.
Sur le plan international. Il y a déjà.
Il est fiché.
Bon, il est fiché.
Oui.
Et sa tête serait même mise à prix.
Par les Américains.
Donc, vraiment, créer des conditions pour que Iyad puisse revenir à l'être très, très compliqué. Parce que la communauté internationale reste contredire aussi.
Et l'autre version, parce que j'évoquais les deux options. Soit on crée les conditions pour le mettre dans le cadre légal.
Ou une position plus radicale.
Une position plus radicale. Maintenant, il faut s'assumer, il faut dire que ce qui devait être fait quelque part n'a pas été fait. Je pense qu'on ne doit pas tourner autour de cela.
Ça devait être fait par qui?
On est dans la position radicale. Hein? On est dans la position radicale. On sait qu'il y a des terroristes et qu'il est recherché par la communauté internationale. Donc c'est la position radicale qu'elle a. Peut-être qu'on n'a pas eu à mettre la main dessus d'abord. Donc moi, je pense que le problème, ce n'est pas qu'il fasse partie ou non des négociations. Le problème, c'est qu'on est en train de négocier avec des gens. Quel est leur poids? Et quelle est leur capacité à faire respecter leurs paroles? Et quelle est leur volonté de faire revenir la paix dans cette partie? Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Je pense que Yad, on le sait déjà, Yad est un terroriste et que vraiment on doit le traiter terroriste.
Nous allons observer une pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani qui réunit donc les confrères de la presse. Nous avons trois journalistes et quand on réunit des journalistes, il est difficile donc de prendre la parole et de marquer une pause. Alors nous réfléchissons sur quatre sujets aujourd'hui. Nous avons parlé du paraf qui se fait attendre du côté de la CEMA. Les partis sont réunis à Alger, les violences dans le nord du Mali avec cette implication possible ou présumée donc de Yad Agali, président de Ansardine, mouvement donc classé par les États-Unis comme mouvement terroriste et djihadiste. Alors deux sujets pour finir donc cette émission, drame de la migration, 400 migrants africains ont disparu dans un naufrage en Méditerranée dimanche dernier. Des Maliens figurent au nombre des victimes. L'association malienne des expulsés pointe du doigt l'Union européenne qui, selon elle, met en place des systèmes de surveillance qui causent les sept drames que vivent ces migrants. L'association met en cause également la Libye. Alassane Diko, chargé de plaidoyer à l'association malienne des expulsés, au micro de Aliou Sidi Bé pour plus de précisions.
Il y a des risques parce que c'est une aventure aléatoire. Les départs sont devenus de plus en plus nombreux, de plus en plus hasardeux. Et quand les migrants s'inscrivent déjà auprès d'un passeur, d'abord ils payent, mais on les force à embarquer sur des navires, sur des bateaux qui ne sont pas du tout propres à supporter, n'est-ce pas, les vagues. Comme nous l'avons dit, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, l'Est Méditerranée ne tuait pas. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a le dispositif Frontex qui est là, qui aussi, effectivement, dans cette pratique occasionne pas mal de drames, il faut le dire, parce que c'est toute une armada de navires et de patrouilles qui sont sur cette mer et qui causent aussi un grand mouvement de vagues. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre que d'en appeler vraiment à la responsabilité de l'Union européenne concernant les pratiques de l'agence Frontex?
Alors, on me fait signe que c'est plutôt Alassane Dramé de l'AME, l'association malienne des expulsés, qui était au micro de Aliou Sidi Bé pour nous faire le point donc de ces 400 migrants africains tués qui sont disparus au cours d'un naufrage en Méditerranée. Alors, nous allons voir avec nos confrères ce qu'il en est aujourd'hui de ces drames dans le sur les côtes européennes. Bye. Un mot sur ces 400 disparus?
Je crois que c'est triste parce qu'à chaque fois que un drame survient sur la Méditerranée, je crois que c'est vraiment quelque chose de répugnant, de malheureux. Mais une fois encore, ça pose toute la problématique que les États africains ont à contenir leur jeunesse, à leur proposer des emplois et à leur faire comprendre que vraiment l'Europe n'est pas l'Eldorado. Aujourd'hui, la situation en Libye, certains migrants, des jeunes pensent que la situation en Libye favorise l'entrée dans les pays européens. Mais ils ne comprennent pas réellement
ce qui se passe en Libye.
Un pays sans gouvernement ou des fractions.
Gérées par des tribus.
Par des tribus ou des fractions rebelles s'affrontent dans des violences, dans des combats extrêmement violents. Moi, je pense qu'il faut un effort de sensibilisation. Il faut un effort de sensibilisation à l'endroit de ces jeunes et que vraiment les pouvoirs publics aussi prennent des mesures ainsi que vraiment qu'on arrête. On arrête vraiment ces voyages vraiment meurtriers à travers le continent.
Antoine Dambélé de la radio Renouveau FM.
Au-delà de la sensibilisation, comme l'a dit mon confrère Baye, moi je pense que toujours il faut que
les pays du départ là, vraiment qu'ils adoptent de vraies politiques d'emploi. Parce que ce que nous avons vu vraiment l'autre jour, vraiment c'est triste, c'est malheureux. Et souvent, dans ce monde moderne, en voyant des situations comme ça, souvent, c'est-à-dire que ça met l'humanité face à elle-même. Et aujourd'hui, savoir que les gens sont malheureux, ils voient la mort, ils préfèrent la mort que de rester chez eux, là c'est le comble. Moi je pense que les pays de départ doivent tout faire pour vraiment adopter des politiques d'emploi, pour vraiment que ces jeunes-là puissent rester chez eux et garantir leur avenir, vraiment.
Alors, la migration, c'est tout un tas de problèmes. Cette semaine, on en a beaucoup parlé. Il y a ces actes xénophobes en Afrique du Sud également qui se passent et qui ternissent en quelque sorte l'image du continent. Lafia, que dire de tous ces événements?
Est-ce que c'est des événements qui interpellent? Qui nous interpelle, nous, en tant qu'Africains. Parce que personnellement, quand je pense aux événements, la tragédie de Lampedusa en 2013, je ne pensais pas qu'on pouvait encore en arriver là. Mais hélas, puisque les deux confrères, mes déprécieurs l'ont déjà dit, il faudrait qu'en amont, qu'on trouve les voies et moyens pour lutter contre le désœuvrement. Parce que tant que la jeunesse n'est pas occupée, tant qu'il n'y a pas de bonne politique, et là c'est une interpellation à l'endroit du politique africain, que le politique africain s'assume, qu'il y ait cette prise de conscience de sa part, même si tel est le cas, on ne voit pas les effets sur le terrain. Sinon comment comprendre que des milliers de personnes, parce que d'après les informations, les statistiques, entre janvier et février 2015, il y a eu plus de 7880 migrants en provenance d'Afrique qui sont allés. Et malheureusement, c'est un nombre qui est encore beaucoup plus élevé d'il y a un an seulement, soit plus de 43%. Donc quelque part, ça prouve vraiment le degré d'amertume, le degré de souffrance, le degré de malaise dans les pays de départ. Donc c'est une forte interpellation à l'endroit du politique africain. Mais que nous aussi, jeunes africains, parce que la plupart des candidats à l'immigration, c'est des jeunes, qu'on essaie de voir, de changer, de voir comment changer, trouver une alternative. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas une solution en tant que telle. L'Eldorado, ce n'est pas l'Eldorado. Maintenant, pour revenir au cas spécifique des Sud-Africains, j'avoue que c'est étonnant, c'est inadmissible, venant d'un peuple comme le peuple sud-africain, peuple à l'endroit de qui il y a eu toute une mobilisation
au moment de l'apartheid,
peuple à l'endroit duquel il y a eu toute une solidarité africaine, toute une solidarité internationale, vraiment qu'on puisse en arriver là. Il est temps de revoir, parce que ce n'est pas une première, le fait de s'en prendre à des étrangers. Je rejoins souvent certains artistes qui disent qu'il est temps qu'on supprime les visas entre pays africains. C'est inadmissible. Voilà une des raisons. Parce que s'il y avait des initiatives comme ça, on allait cesser de se voir en étranger.
Et dans un pays où la présidente de l'Union africaine est ressortissante, c'est un paradoxe. Alors nous allons passer au dernier sujet, le sommet du CILS. Ibrahim Boubacar Keïta, nommé à la tête du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le président malien succède à son homologue tchadien Idriss Déby. La réunion des chefs d'État membres du CILS s'est tenue cette semaine donc à Bamako. Alors Ibeka peut-il, en plus de la crise, s'occuper convenablement de cette organisation continentale? Antoine Damilé de Renouveau FM.
Merci. Le CILS, comme vous l'avez dit, ce comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les regroupements régionaux, l'objectif premier d'abord, c'était quoi? Parce qu'il y a certains pays qui ont des réalités communes. Donc la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, donc c'était pour mettre en place des mécanismes vraiment pour lutter contre la sécheresse et surtout garantir l'autosuffisance alimentaire. qu'il soit nommé président du SILS avec la crise au Mali, moi je pense qu'il ne doit pas avoir de problème parce que vraiment les mécanismes sont déjà là. Mais ce que je vais ajouter avant de donner la parole, c'est que de sa création à maintenant, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est depuis dans les années 1973, plus de 40 ans, mais réellement l'impact et l'avancée vraiment dans la lutte contre la sécheresse, vraiment l'impact, on ne le voit pas. Et moi, je pense qu'il faut revenir sur ça et essayer de mettre en place vraiment des bonnes politiques pour vraiment contrer cette sécheresse-là.
Ibeka, à la tête du SILS, Mbaye.
Bah, je crois qu'il en a assez quand même. Il en a assez. Il en a assez pour gérer ça. Mais je pense que c'est important quand même que cette organisation...
C'est quand même une première qu'on lui confie depuis qu'il est
président de la République du Mali. En tout cas, un poste aussi important au niveau inter-État. Je pense que le SILS, comme on l'a dit, c'est vraiment cette organisation qui met en place des mécanismes pour... traiter certains problèmes des pays confrontés notamment à la sécheresse. Je crois que ces derniers temps, depuis sa création dans les années 70, je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Je crois que le dernier mandat était occupé par un Malien, Alphonse Bretodo, qui quand même a réalisé des actions très louables. Mais comme on le dit, l'organisation est souvent confrontée à des problèmes, des problèmes qui sont liés à l'instabilité dans les États. Je parle notamment du problème sur le plan agricole, par exemple. Quand on prend le problème, par exemple, des criquets pèlerins, qui est vraiment un problème extrêmement important pour les pays du Sahel, parce que les criquets pèlerins se développent dans les zones du Sahel. Et c'est ces zones constituent ce qu'on appelle des zones grégariennes. Par exemple, quand on prend le cas du Mali, par exemple, la région du Kidal est une zone extrêmement importante parce que c'est une zone favorable au développement des criquets pèlerins. Mais vous voyez l'instabilité, toute l'instabilité dans cette zone. Je crois que c'est ce genre de problème, l'instabilité politique dans les États qui font que vraiment l'effet escompté pour ces organisations sous-régionales ne sont pas toujours. Donc il faut que vraiment cette situation politique s'améliore dans les États. Et je crois que IBK, son cheval de bataille, doit être cela pour que la situation politique s'améliore au Mali, l'insécurité s'améliore au Mali et au Tchad aussi, que l'instabilité politique au Tchad aussi s'améliore. Et là je pense que vraiment le SILS pourra vraiment atteindre certains de ses objectifs.
D'accord. Alors, Lafia Sinaba, vous êtes journaliste indépendant. Un mot sur la présidence d'Ibeka qui commence donc à la tête du SILS.
Pour caricaturer, j'ai vu ça quelque part, un internaute qui disait que vraiment... Qu'il se concentre sur le problème du Mali, qu'il en a assez. Ce qu'on attend de lui, on n'a pas encore le résultat escompté. Ça, c'est pour un peu caricaturer, mais je pense bien que.
Bah, il parlait des criquets, il faut aller dans l'air.
Je pense bien que c'est une très bonne chose. D'abord, ça prouve que ses pairs ont confiance en lui. Ça prouve que le Mali commence à venir petit à petit dans le concert des nations. Et puis, la plupart des travaux, c'est fait par. Ces travaux-là sont faits par des experts. Donc, il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un.
Qu'il ait la télécommande.
Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas grande chose à attendre de lui. Parce que lui-même, il a été clair de répondre à une question: quelle sera sa politique? Il dit qu'il ne va pas inventer, en quelque sorte. Il y a déjà des visions qui sont là. Lui, son travail, ça sera dans le cadre de la continuité.
C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré est à la technique. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end. À très bientôt pour un autre débat, un autre grand dialogue. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Biro.
Halud Mouni.
Chenne Biri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.